C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
6h04, nous sommes vendredi 4 mars avec un matin froid, autour de moins 18, partiellement nuageux. Le maximum pour la journée, moins 5 degrés avec du soleil, des vents, ce qui va vous donner un facteur éolien quand même assez élevé, surtout ce matin. Pour ce qui est de la nuit prochaine, c'est moins 12. Pour demain samedi, c'est du soleil en début de journée, ça se couvre. Et très tard en soirée, il y aura de la neige. Et c'est comme trois épisodes qu'on va vivre pour la grande région métropolitaine. D'abord de la neige, ça va devenir de la pluie verglaçante durant la nuit et beaucoup de pluie dans la journée de samedi. On va tout de suite faire le point sur la situation en Ukraine. Évidemment, la grande préoccupation, c'est l'attaque russe contre la plus importante centrale nucléaire du pays, qui est située à Zaporizhzhia et qui, dit-on, en tout cas l'Ukraine affirme que c'est une attaque ciblée de la part des Russes. C'est une centrale évidemment vitale puisqu'elle alimente en électricité évidemment une bonne partie de la population. Les tirs auraient touché la partie administrative. Officiellement, les Russes ont pris le contrôle et affirment que la situation, je dirais, demeure quand même préoccupante, mais qu'il n'y a pas eu de fissure, il n'y a pas évidemment de bris comme tel pour les réacteurs. Mais c'est donc une centrale maintenant sous contrôle des Russes. Et dans plusieurs villes du pays, les bombardements continuent de s'intensifier. On va regarder tout ça avec Tatiana Ogarkova, qui est journaliste à qui on parle régulièrement et qui a dû se déplacer. Elle est partie de la capitale pour aller un peu plus en banlieue. Et on la retrouve ce matin dans l'ouest de l'Ukraine. Tatiana, bonjour.
Bonjour.
Alors, je crois que vous êtes dans votre ville natale.
Exactement. Je suis à Kamianets-Podilsky. C'est une ville située à l'ouest de l'Ukraine. On a pris la fuite, si on peut dire comme ça, avant-hier dans la matinée, au moment où on a vu que la tour télévision était bombardée. Donc, on craignait beaucoup d'être sans connexion parce que l'Internet était le suivant, sans doute. On a aussi vu que à Kharkiv, que la population civile était cible d'attaques déjà ciblées. Donc, comme on a des enfants, on est parti. On a mis 2 jours pour arriver ici. On est en sécurité. Après Vinnytsia, on a traversé tout le pays. Après Vinnytsia, la vie est beaucoup plus calme. On voit que, bien sûr, c'est la guerre. Il y a des checkpoints, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à Kiev. Les magasins sont ouverts. Il y a bien sûr le couvre-feu, mais on voit pas cet état de guerre. Il y a toujours les alertes aériennes, même ici, à l'extrémité ouest, presque de pays. Et il y a les alertes aériennes beaucoup la nuit, et même depuis ce matin, on a eu 2. Donc les gens se précipitent dans les sous-sols, mais pour l'instant, il n'y avait pas de frappe. C'est vrai que, voilà, bien sûr, on se réveillait stupéfait et pétrifié, je veux dire, par cette nouvelle sur la frappe dans la station nucléaire de Zaporizhzhia. Ça, c'est inimaginable. Et que maintenant, cette station est dans les mains de l'armée russe. C'est un danger existentiel, je dirais, pour toute l'Europe, en fait, puisque c'est une station la plus grande, en fait, depuis. Ici, il y a quelque chose qui se passe. Ça sera 6 fois plus fort que Tchernobyl. Tchernobyl, souvenons-nous, c'est une catastrophe écologique, une des plus grandes du siècle dernier. Donc, rien n'est optimiste. Donc, l'état d'esprit est très préoccupé. Les gens ne parlent que de ça, en fait, puisque on a passé une fois de plus avec cette escalade par laquelle procède Vladimir Poutine à encore un autre niveau. Et donc, aujourd'hui, notre seule demande, notre seule prière est de faire tout le possible pour protéger le ciel ukrainien. Bien sûr, c'est difficile à faire et on comprend tout à fait les préoccupations de nos partenaires occidentaux, notamment des États-Unis, que voilà, que s'ils couvrent le ciel, s'ils abattent les missiles, les Russes, ça voulait dire qu'ils entrent en guerre avec la Russie, 2 États nucléaires, c'est grave, mais tout porte à croire que ce clash avec la Russie est de toute manière inévitable. Il faut réfléchir à une manière intelligente de procéder aujourd'hui, puisque catastrophe écologique du nucléaire, elle n'a pas de frontières. et se limite pas, malheureusement, pas à l'Ukraine. Ça va concerner tout le monde, tout le continent en tout cas. Et donc, il est urgent d'agir, en fait.
Je veux revenir sur deux ou trois éléments que vous venez de décrire. D'abord, quand vous étiez dans la capitale, Kiev, vous avez sans doute été témoin, justement, de la transformation de la ville, donc la colonne de blindés à proximité, des tirs balistiques également. Pourriez-vous nous décrire ce que vous avez vécu à ce moment-là?
Oui, on s'est situé quand on était le premier jour quand on s'est réveillé, il y avait des frappes ciblées contre les objets militaires dans notre ville de Brovary d'abord. Pour nous c'était ça le début de la guerre. C'est une réalité qu'on n'a jamais connue. C'est incroyable. Ensuite, on était à côté de Vassilkiv, dans la banlieue de l'autre côté de la ville. Donc, Vassilkiv était aussi bombardé par des missiles balistiques. Ça faisait comme si c'était un tremblement de terre. Les murs de notre maison tremblaient. Ça se passait la nuit. On n'entendait pas tellement de sirènes puisqu'on était loin de la ville, mais on entendait déjà des frappes. Donc, la vie dans la ville se dégrade d'une vitesse incroyable quand c'est la guerre. Tout de suite, il y a le manque de produits dans les magasins. Tout de suite, on peut plus rien s'acheter. Tout de suite, il y a des queues énormes pour l'essence. Après, il y a plus d'essence. Tout de suite, les gens sont coupés. Certains sont coupés d'électricité. Il n'y a pas de connexion avec votre famille, avec vos amis. Ça se dégénère d'une manière incroyable. Et on comprend maintenant, aujourd'hui, à quel point notre civilisation est-elle fragile. C'est une leçon qu'on a tirée de cette guerre. Elle ne dure un peu plus qu'une semaine. Mais vous voyez, c'est une vitesse incroyable. Les gens dorment à Kiev dans le métro. Mes collègues de Ukraine Crisis Media Center, plusieurs dormaient 7 nuits consécutives dans le métro. Donc, on redescend au Moyen-Âge carrément. Donc, c'est tellement vite. Et donc, on apprécie sans doute pas assez les biens de la civilisation, les biens de la sécurité qu'on a aujourd'hui. On le perçoit comme si c'était toujours comme ça, mais non, justement, il suffit d'une semaine pour transformer la vie d'une grande ville en cauchemar, en fait, où il faut faire la queue pour avoir des médicaments. Heureusement, on n'a pas des membres de famille avec des maladies chroniques, mais imaginez-vous quelqu'un avec une maladie chronique et qu'il est en manque de médicaments, et les pharmacies, la majorité, sont fermées. Après, il y a une seule pharmacie, il faut se déplacer, il faut faire la queue pendant 3 heures pour acheter. Donc ça c'est vraiment dramatique. Imaginez des enfants qui naissent au souterrain, tous les hôpitaux, toutes les maternités, par exemple. On a déjà des amis qui ont accouché, qui ont eu leur bébé dans les souterrains des hôpitaux, puisque les hôpitaux fonctionnent, mais ils ne peuvent pas opérer comme d'habitude, puisque l'armée russe vise aussi les hôpitaux. Il y avait une maternité dans la banlieue de Kiev, tout simplement, qui était attaquée par les tirs. Donc, c'est absolument inhumain, et donc ça transforme la vie. Après, si on bouge un peu à l'ouest, donc on a pris la décision de placer à l'ouest, toute la région de Kiev est concernée. C'est-à-dire que avant notre départ, il y avait des frappes à Bibatserkva, donc aussi infrastructures civiles. Quelques objets étaient détruits, mais à partir de Vinnytsia, c'est quand même aujourd'hui un autre monde, c'est un peu le monde d'avant. C'est-à-dire qu'il y a les magasins, qu'il y a les gens, donc il y a quand même, les gens sont dans la rue. Il y a tout juste les alertes aériennes qui font les gens se précipiter, mais ils durent pas longtemps. À part cela, c'est la vie normale. Donc, on a pris 500 kilomètres, on a fait 500 kilomètres en 2 jours, mais on croit qu'on a voyagé sur une autre planète, en fait. Donc, pour nous, c'est un voyage dans le temps, vers le passé. Donc, le passé parce qu'à présent, à Kiev, ça n'existe plus, cette vie, cette civilisation, elle n'y est plus, en fait.
Encore une fois, merci vraiment du fond du cœur d'avoir pris ce temps-là avec nous. On va garder le contact. Prenez soin de vous, soyez prudente et à très bientôt, Tetiana.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Tetiana Ogarkova, qui est journaliste, et elle s'est déplacée dans sa ville natale avec ses enfants qui ont 3, 5 et 13 ans, et son conjoint, ses parents également. Et tout ça pour être capable de garder le contact, puis de trouver encore dans le pays, encore des zones qui sont moins touchées. Les Russes qui ont particulièrement frappé les villes les plus importantes, des villes portuaires, des villes au sud, prise de contrôle confirmée. Et je rappelle évidemment cette nouvelle majeure concernant cette centrale nucléaire à Zaporizhzhia. Ça s'est passé dans les dernières heures. Les tirs ont provoqué un incendie. Et là, au début, on craignait évidemment une réaction en chaîne qui aurait eu des conséquences majeures. D'abord, c'est la plus importante centrale nucléaire de l'Ukraine qui alimente en électricité une bonne partie de la population. Les Russes ont pris le contrôle de la centrale. Les tirs ont touché d'abord les locaux administratifs, mais à proximité des réacteurs. Et là, officiellement, en tout cas, on est en guerre, donc difficile d'avoir une certaine neutralité dans les infos, là, mais que la centrale fonctionne correctement, que les installations qui sont situées à, je pense, c'est 500 kilomètres de la capitale, sont toujours en mesure d'alimenter la centrale nucléaire. Il n'y aurait pas eu de victimes non plus. Et c'est sûr que pour bien des gens, puis Tétiana l'a rappelé, ça nous fait penser évidemment à Tchernobyl, qui avait été une catastrophe épouvantable. Il y a cette série que vous pouvez regarder là, sur la négligence qui a amené cette catastrophe. Et là, ça fait dire à des gens ce matin que c'est pas un accident là, qu'on touche une centrale nucléaire. C'est une source d'énergie importante et ça donne le ton. Puis je vais revenir tantôt sur d'autres nouvelles en périphérie. Donc, quelques éléments à ajouter au sujet de la guerre en Ukraine. Deux, trois volets politiques, peut-être, pour commencer. Hier, le président Poutine a fait le point. Il a dit « Tout se déroule selon mon plan. Tout se déroule très bien. Ce qui se passe, c'est ce qui était prévu. Et il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de retard. » Parce qu'on a beaucoup parlé, justement, de la lente progression des Russes, mais soudainement, ça s'est accéléré. Le président français Emmanuel Macron, qui a annoncé d'ailleurs qu'il sera à nouveau candidat, garde le contact téléphonique avec Poutine. Et le ton monté entre les deux, et Macron a dit « le pire est à venir ». Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est des bombardements plus intensifs. On voit de plus en plus de quartiers résidentiels, donc des civils qui sont touchés, des immeubles d'habitation qui sont ravagés. Le quartier des affaires de plusieurs villes, donc les principales villes du pays qui sont à la fois bombardées et en même temps, on voit le siège qui s'installe, la prise de contrôle de la part des Russes. Et pour ce qui est des sanctions économiques, je lisais ce matin dans le New York Times que des conseillers du président américain s'inquiètent de l'effet un peu pervers de ces mesures, parce que les mesures ont été adoptées par la grande majorité des pays et ça donne des résultats. Vous avez l'image des yachts de milliardaires et des appartements luxueux qui sont saisis. Mais dans le quotidien des Russes, ces sanctions commencent à peser. Et ce qu'on remarque, évidemment, c'est l'effondrement du rouble, la difficulté de faire des affaires. Donc, on n'avait peut-être pas prévu que ça ferait effet aussi rapidement. Et que ça pourrait amener donc, pour conclure, le président Poutine à peut-être vouloir encore frapper plus fort. Parce qu'on n'est pas toujours dans le rationnel, on n'est pas dans quelqu'un qui est en train d'analyser des faits. C'est quelqu'un qui a une mission, c'est quelqu'un qui se voit comme celui qui va ramener la grande Russie, l'Empire, comme à l'époque de l'Union soviétique. Et jusqu'où est-il prêt à aller, d'après les analyses qu'on peut lire encore ce matin? Il peut aller très loin et très rapidement. Et on va regarder tout ça avec d'autres experts tantôt. Bien sûr, Jean-François Lépine sera avec nous. Mais je vais parler avec le responsable de l'UNICEF parce qu'il y a évidemment beaucoup, beaucoup d'enfants en Ukraine. Il y a 1 million de réfugiés et plus. Et de ce nombre, c'est un pourcentage très élevé d'enfants qu'on retrouve. Et finalement, le Canada promet d'accélérer les procédures pour permettre aux Ukrainiens de venir s'installer au pays. On a parlé avec des Ukrainiens sur place. Le Canada est une lourde bureaucratie quand vient le moment de remplir la paperasse là, pour les visas. Les pays d'Europe ont laissé tomber ce mécanisme. Ils disent « venez-vous-en », peut-être de façon temporaire, mais on est là pour aider. Puis sortez du pays, puis on va vous accueillir. Et là, encore une promesse. Le Canada fait beaucoup de promesses, mais encore une promesse qui, souhaitons-le, va se concrétiser. Maintenant, petit coup d'œil rapide sur les autres nouvelles. Bon, le port du masque ne sera plus obligatoire à la mi-avril, si on le savait. Le docteur Boileau, directeur de la santé publique par intérim, l'a confirmé en disant, bon, ben ça sera pas obligatoire, mais ça sera pas interdit non plus, ce qui fait que ça devient un choix personnel, sauf, par exemple, pour le personnel de la santé, pour les déplacements dans le métro. Alors, d'ici, grosso modo, un mois, un petit peu plus, là, vous aurez plus à porter le masque, par exemple, dans des commerces ou en allant faire l'épicerie. Ça va devenir un choix, puis on va le recommander aux gens qui ont des enjeux de santé, notamment des personnes avec maladies chroniques ou des personnes immunosupprimées qui, on va leur suggérer de continuer à porter le masque. Puis il y a tout l'enjeu au sujet du couvre-feu. Parce que là, le gouvernement voulait pas trop dire quelles étaient les bases scientifiques quand on a réimposé le couvre-feu à la fin de l'année. Et ce que je trouve intéressant dans ça, c'est d'abord Radio-Canada qui a reçu des documents cavardés. Alors, impossible de voir l'analyse. Et finalement, hier soir, ils ont rendu ça public. Et il n'y avait pas d'études. Puis c'est parti d'un litige, entre autres, entre la santé publique de Montréal et la santé publique nationale. Docteur Drouet a dit, on pense que c'est pas une bonne idée le couvre-feu. On pense que ça va faire mal à des gens qui sont déjà faibles et vulnérables. Pensons à des itinérants. Fait que c'est pas une bonne affaire. Et malgré ça, Dr Arruda a recommandé au gouvernement d'y aller avec le couvre-feu. Et à la veille de l'annoncer, on cherchait encore des études. Avez-vous quelque chose qui prouve que ça marche? Puis on n'a rien trouvé. Et je peux comprendre là, l'argument qui est de dire « Ouais, mais il n'y a pas un gouvernement qui aime ça imposer le couvre-feu, puis on fait pas ça par plaisir, puis c'est pas... » Puis d'ailleurs, je ferais remarquer qu'il n'a pas duré ben, ben longtemps le couvre-feu. Puis moi, j'ai toujours pensé depuis le début que ça donnait rien. Que c'était une mesure comme ça. Le premier avait sa raison d'être. Celui-là, pas certain, pour ne pas dire le contraire. Et finalement, on a décidé de retirer le couvre-feu. Alors, discussion quand même intéressante. Et Marc parlait du prix de l'essence. L'inflation en général fait mal, j'en parle beaucoup. Quand vous avez un prix de l'essence qui prend 1,72 $, 1,73 $, puis on est rendu à 1,85 $, 1,86 $, puis qu'on s'en va vers le 2 $ dans les prochaines semaines, c'est un effet réel sur le portefeuille, puis pas juste quand vous faites le plein, là, sur les produits, sur la livraison, qui est déjà complexe. Fait que on se retrouve dans une situation où le budget familial est attaqué à bien des endroits. Taux d'intérêt qui monte un peu. L'inflation, secteur alimentaire, c'est clair. Le prix de l'essence avec ses effets collatéraux. Alors, il faut surveiller ça. Puis il y a des chiffres ce matin, entre autres, sur, je regardais, là, sur la vente des propriétés, le prix des maisons unifamiliales sur la Rive-Sud, a grimpé de 31% en un an. C'est à peu près 560 000 le prix médian. Et quand on regarde ailleurs aussi, on se rend compte qu'il y a, en périphérie de Montréal, c'est là que les prix, plus récemment, ont connu des hausses importantes. Et on note également une accélération de la montée des prix sur la Rive-Nord, la Rive-Sud, Vaudreuil-Soulanges et Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, si vous avez des propriétés dans ce coin-là, ça a augmenté pas mal, mais globalement, là, on peut le dire, là, que pour la Rive-Sud de Montréal, là, c'est une augmentation de 30%. Donc, si vous êtes un jeune couple et que vous voulez vous acheter quelque chose, il faut chercher, puis il faut chercher longtemps, puis il faut avoir, une mise de fonds qui va être importante.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Fin de soirée, début de nuit, heure de Montréal. Donc, la plus importante centrale nucléaire d'Europe, située en Ukraine, la centrale de Zaporijia, a été touchée par des tirs. Les bureaux administratifs ont été touchés. Il y a eu incendie. Les forces russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire qui donne de l'électricité environ 25% de la population, et on affirme ce matin que la situation est stable. Alors évidemment, quand vous entendez qu'une centrale nucléaire est ciblée et que des missiles sont tirés, il y a un niveau d'inquiétude qui augmente, mais ce niveau d'inquiétude, c'est pas juste le fait qu'il y a eu une attaque, c'est comment va se passer le contrôle de cette centrale nucléaire. J'en parle avec Guy Marleau, qui est spécialiste du génie nucléaire depuis 40 ans, professeur associé au département de génie physique de Polytechnique Montréal. Monsieur Marleau, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Première question, une centrale nucléaire comme ça, là, quand vous regardez la situation, quel est le risque le plus important? Un missile ou la gestion de la centrale par la suite?
Les deux sont importants parce que le missile pourrait causer des dommages au bâtiment réacteur, mais il y a aussi la gestion de l'opération des réacteurs qui pourrait causer des problèmes majeurs à plus ou moins long terme.
Donnez-moi des exemples de ce que vous voulez dire, là, la gestion qui serait pas adéquate et qui pourrait amener des problèmes.
Bon, en principe, dans un réacteur nucléaire, il y a les opérateurs qui font fonctionner le réacteur. Si on désactive tous les éléments, tous les mécanismes de sécurité qui protègent le réacteur, il pourrait y avoir un accident majeur. Même si ce réacteur-là est construit avec de la sûreté qu'on appelle intrinsèque, qui fait que la majorité des événements qui pourraient se produire seraient contrôlés automatiquement par la physique d'opération du réacteur.
Et est-ce que ça veut dire qu'en cas de bris, en cas d'accident, quand vous regardez ce type de centrale nucléaire, il y aurait donc, je sais pas moi, contamination sur un territoire important. Donc, il n'y a pas que la proximité de la centrale qui serait touchée.
Il y aurait surtout la proximité de la centrale, puisque le bâtiment réacteur est fait pour résister aux assauts de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, en principe, s'il y avait un événement très sérieux qui se passait à l'intérieur du bâtiment réacteur, ça devrait être contenu et les éjections à l'extérieur de contaminants radioactifs pourraient être minimisées. Mais encore là, c'est vrai si la personne qui s'occupe de la gestion du réacteur, qui est dans un bâtiment à côté, va prendre les moyens pour minimiser les rejets à l'environnement. Si les personnes laissent tout aller, ben là, on se retrouve avec un problème de contamination qui pourrait s'étendre sur une bonne distance.
Les gens, depuis cette nuit, font des comparaisons avec Tchernobyl. Pourriez-vous nous résumer Tchernobyl, puis surtout, est-ce que ça tient la route de comparer ce qui se passe actuellement à ce qu'on a vécu à cette centrale de Tchernobyl?
Ça ne tient pas vraiment la route pour la raison suivante, c'est que Tchernobyl, c'est une vieille technologie avec un réacteur qui n'était pas protégé. Donc, au lieu d'avoir un bâtiment en réacteur en béton qui a jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, du béton armé, l'autre, c'était l'équivalent d'un hangar en tôle qui entourait le réacteur. Donc, tous les rejets était expulsé vers l'extérieur s'il y avait un accident. Et deuxièmement, la technologie du réacteur, la façon d'opérer le réacteur était complètement différente. Dans un cas, c'est une technologie récente qui est semblable à la technologie qui est utilisée aux États-Unis ou en France pour les réacteurs qui fonctionnent maintenant. Alors que l'autre, c'est une technologie assez vieille. C'est un réacteur qui contenait du graphite mélangé avec de l'eau et c'était une technologie qui était plus susceptible de causer des émissions à l'environnement.
Monsieur Marleau, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Guy Marleau est spécialiste du génie nucléaire et prof donc à Polytechnique Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
L'armée russe a donc attaqué la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle est située en Ukraine, bien sûr. C'est une centrale importante qui donne de l'électricité à environ 25% de la population. Il y a eu incendie. Les Russes ont pris le contrôle. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, ce matin, je veux m'intéresser au côté humanitaire, notamment à la situation des enfants en Ukraine. On sait qu'il y a 1 million et plus de réfugiés et qu'il y en aura d'autres au cours des prochains jours qui sont majoritairement donc des femmes, des enfants et des personnes âgées qui quittent vers d'autres pays limitrophes. On peut penser à la Pologne. Et les enfants ukrainiens représentent, dit-on, un pourcentage très élevé, si c'est pas la moitié, de ces gens qui sont en déplacement. Alors, comment ça se passe pour eux? Qu'est-ce qu'ils vivent? Il y a des enfants qui restent encore dans les zones qui sont actuellement bombardées. J'en parle avec Philippe Cory, qui est le directeur adjoint régional de l'UNICEF pour l'Europe et l'Asie centrale. Monsieur Cory, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, d'abord, peut-être nous dire un peu ce matin, quel est le portrait des enfants ukrainiens plus d'une semaine après le début de cette guerre? Comment ils vivent ça? Puis quelles sont les premières conclusions que vous tirez à l'UNICEF?
Mais écoutez, Paul, c'est simple, hein. C'est 7,5 millions d'enfants ukrainiens qui sont traumatisés, qui sont terrorisés par les bombardements, qui voient leur maison, leur école, l'hôpital, la maternité détruite, et les parents, les familles séparées. Vous avez justement dit qu'il y a déjà 1 million de réfugiés qui ont quitté le pays sur une population d'un peu plus de 40 millions d'habitants. Donc la situation est dramatique. Beaucoup d'enfants restent terrés dans des abris. Je pense particulièrement aux enfants avec handicap. L'Ukraine est un pays où on a beaucoup institutionnalisé les enfants. On compte à peu près 91 000 enfants en institution qui sont des enfants avec handicap. Ces enfants ont bien sûr une mobilité réduite, ont été séparés de leur famille. Donc ce sont des enfants qui ont déjà été oubliés en temps normal et en période de crise, ont beaucoup moins de facilité de se sauver. Dès qu'il y aura des bombardements dans leur quartier. Donc on voit et on s'attend à un effort massif du nombre de réfugiés qui vont vouloir quitter. Vous savez, et c'est une réaction humaine, lorsque vous avez des bombardements, les familles veulent protéger leurs enfants. Et donc c'est pourquoi on voit sur ces cohortes de réfugiés qui marchent des heures et des jours, parfois pour certains d'entre eux, pour atteindre la frontière, nous avons beaucoup d'enfants avec leur maman et souvent des grands-parents qui les accompagnent. Donc la situation sanitaire est terrible parce que ils n'ont plus accès à l'eau propre, il n'y a plus de toilettes. Il faut savoir que 3 à 4 millions d'Ukrainiens déjà n'ont plus accès à l'eau potable du fait des bombardements des installations sanitaires. Et puis les problèmes de santé qui se posent puisqu'on était en train, et on continue malgré la situation, à traiter la polio. Nous avions une épidémie de polio et nos équipes continuent de travailler dans la partie ouest en particulier. En matière d'eau, on amène des camions d'eau sur la partie est, car l'UNICEF est en Ukraine depuis plus de 25 ans et nous travaillons, j'y étais moi-même en décembre dernier, et nous travaillons même dans les zones avec des gouvernements de fait qui sont où il y a des enfants, où il y a aussi de la souffrance. Et donc, on essaye de continuer nos opérations malgré les difficultés. Nous avons un bureau de 150 personnes qu'on a rapproché de Lviv. On a quitté Kiev pour la plupart de nos personnels parce que Kiev commence à être bombardé de plus en plus. Mais nous opérons de Lviv, qui est à 70 kilomètres de la frontière avec la Pologne. Et sur les pays limitrophes, que sont la Pologne, la Roumanie, la Moldavie, la Hongrie, la République tchèque et slovaque, nous mettons en place un réseau de points bleus, qui sont des points famille, pour pouvoir donner un soin immédiat aux enfants en matière du traitement du traumatisme qu'ils subissent et qu'ils ont subi, des distributions d'eau, de médicaments, et bien sûr, essayons de créer un espace de protection pour ces enfants, pour leur redonner un sens de sécurité et de normalité qu'ils ont perdu.
Mais
en place toute la frontière.
Très bien. J'allais vous demander aussi, au début, les Russes visaient des installations militaires, des infrastructures, et on voit la tendance maintenant de plus en plus de quartiers, de zones d'habitation, de zones où se trouvent des civils sont touchés. Est-ce que vous craignez que l'exode soit encore plus important? Puis est-ce que vous craignez qu'il y ait de plus en plus de civils qui soient blessés, tués, et donc des enfants par voie de conséquence?
Oui, exactement. Paul, déjà, les enfants ont été tués et blessés. Hein, donc, ça va s'intensifier du fait de du conflit qui augmente heure par heure. On a vu, hein, vous parliez de la centrale nucléaire, mais il y a de plus en plus de bâtiments qui s'effondrent. Et on compte parmi cela des maternités, des écoles, des hôpitaux, des orphelinats. Donc, il y a plus, et bien sûr, des habitations où les enfants vivent avec leur famille. Donc, ça va s'accentuer. Donc, on attend une augmentation massive des réfugiés. On est en train de discuter, comme vous le savez, d'un corps de principe sur un corridor humanitaire pour pouvoir au moins évacuer les gens qui sont dans les zones de guerre et d'intensification de bombardements pour sauver les enfants et leurs familles. Donc ça, c'est certainement quelque chose qui va encore déclencher un mouvement de population sur les routes avec leurs enfants dans des conditions sanitaires les plus difficiles. On a pu hier soir faire arriver 4 camions de médicaments et de fournitures hospitalières. Et nous, sur les 2-3 jours qui viennent, nous allons continuer de fournir aux hôpitaux et notamment aux centres d'enfants ces médicaments. Donc, une centaine d'hôpitaux seront couverts. On peut encore opérer sur une bonne partie du territoire et on continue ce soutien. On avait déjà prépositionné des fournitures de toutes sortes d'hygiène, de médicaments. On sait qu'on travaille, qu'on avait tout un partenariat avec les municipalités. Et les municipalités sont un bon partenaire local pour agir avec les communautés. Donc, on les utilise beaucoup pour la distribution des fournitures, des kits d'hygiène, des médicaments, etc.
M. Corrie, merci d'avoir pris ce moment-là avec nous et bravo à vous et à toutes vos équipes sur le terrain. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup. Hein.
Au revoir. Philippe Corrie est directeur adjoint régional d'UNICEF en Europe et également pour l'Asie centrale.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Donc, porter ou pas un masque quand vous serez, par exemple, dans un magasin, ça va devenir progressivement votre choix. Ça ne sera plus obligatoire, au plus tard, dit-on, à Pâques. Et après ça, ben pour les gens qui ont des problèmes de santé chronique, par exemple, des gens qui ont des traitements pour le cancer, on va vous le suggérer fortement, mais il n'y aura pas d'obligation de rattacher au port du masque. On en parle avec Dr. Luc Boileau, qui est le directeur national de santé publique par intérim. Dr. Boileau, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Donc, l'objectif, c'est Pâques et peut-être même avant.
Oui, en effet.
Et vous êtes...
Oui, possible que ce soit avant. Pardon, M. Arcand. C'est possible que ce soit avant si les conditions épidémiologiques sont des plus encourageantes, ce qui est le cas en ce moment, mais il faut attendre quand même quelques jours, une semaine ou deux, pour regarder la progression des hospitalisations et surtout l'impact aussi de la semaine de congé scolaire qui se terminera bientôt pour une partie des Québécois, mais qui reprendra la semaine prochaine pour une autre partie.
OK. Donc, ça veut dire qu'à moins d'un revirement, là, si la tendance se maintient, sauf dans les hôpitaux, CHSLD, puis dans le métro, ben le masque, ce sera une option.
Ça va être une option. En fait, le plus tard, ça va être à Pâques. Comme vous dites, c'est autour de la mi-avril. On n'ira pas plus loin que ça parce que toutes nos prédictions et les modèles là, qui vont jusque-là nous montrent que, d'une manière ou d'une autre, même si on est pessimiste, ça va quand même avoir diminué pour cette période-là. Alors, on pourra être en mesure de le retirer comme une obligation, exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, on ne sera plus tenu de le porter. Par contre, ce sera des choix personnels qui vont certainement varier. Puis, il y a des gens qui ont pris cette habitude puis qui l'apprécient, qui vont continuer. C'est bien correct. Là, on n'a pas de souci avec ça. C'est juste que on pourra pas continuer toujours à obliger les choses à tout le monde. Et puis, de ce côté-là, ben, je pense que les efforts ont tous été faits par la grande majorité des Québécois et on se retrouve dans une belle situation prometteuse, encourageante, mais pas encore finie. On est toujours en pandémie. Il y a toujours plusieurs milliers de cas à chaque jour. Donc, ça circule. Faut rester vigilant de ce côté-là. Faut pas penser que le signal d'aujourd'hui, c'est de dire le virus ne circule plus. C'est pas ça. Il circule. Faut assumer ce risque-là. Aller chercher les protections qui sont les plus utiles, en particulier avec la vaccination ou les doses de rappel. Et il y a d'ailleurs un nouveau vaccin qui est arrivé et qui va être disponible bientôt pour ceux qui étaient réfractaires à prendre l'ARN messager, là, pour lequel, de toute façon, il n'y a pas de souci, mais anyway, ça va être un autre instrument pour encourager les gens à aller chercher l'immunité qu'il faut. Puis, comme vous le savez, il y a déjà beaucoup de Québécois, probablement 3 millions ou peut-être plus là au cours des prochaines semaines avec la progression de l'épidémie qui auront été infectés et qui ne se réinfecteront pas, en tout cas pas pendant les quelques prochains mois, en toute vraisemblance, par l'Omicron, puisqu'on aura déjà une forte immunité acquise. Alors, avec tout ce paysage-là, c'est correct là, de retirer cette obligation de masque qui va rester, comme vous le dites, dans les hôpitaux, les CHSLD, et qui va rester aussi pour les transports publics, en tout cas, quelques semaines de plus, là, certainement pas avant le début du mois de mai.
Bon. Là, il y a beaucoup d'interrogations sur les avis de la santé publique. Et je sais que vous n'étiez pas là à l'époque là, du couvre-feu. Je vais revenir dans quelques instants. Mais quand vous dites, par exemple, que le passeport vaccinal, au lieu que ça soit le 14, ça va être le 12, je comprends que deux jours, ça fait pas la différence. Mais on est presque à se demander si vous avez eu un avis scientifique de Jeff Molson pour ouvrir le Centre Bell.
Oui, ça fait deux fois que quelqu'un me pose cette question. Trois fois, en fait. Non, c'est pas la question du Canadien là, qui va jouer le 12. C'est vraiment que, en fait, M. Arcand, pour être franc avec vous, on regardait puis on se disait, il y avait deux options, c'était ou trois. On gardait le 14, on le ramenait le 7, donc lundi là de la semaine prochaine, et ou encore on le faisait entre les deux. Le 7, c'est un peu trop tôt parce que la semaine de congé scolaire se termine pour une bonne partie le 7. Alors, on voulait quand même se donner une occasion de poursuivre une certaine contrainte autour de tous les contacts des citoyens. Puis, vous le savez, lundi, pour ceux qui reviennent à l'école, ils vont pouvoir enlever le masque assis dans la classe, en tout cas les étudiants, les jeunes. Et puis, on l'avait déjà fait du 14 février au 12 février. On l'a fait il y a à peine un mois. Alors, on s'est dit, bon, on peut... on a le paysage qu'il faut là, pour faire en sorte qu'on recule ça de deux jours pour permettre aux Québécois d'avoir une fin de semaine de plus pour expérimenter le fait qu'ils n'ont plus toutes ces contraintes-là. Et c'est pas juste le Centre Bell, c'est tout là, qui saute en même temps. Donc, les gens vont pouvoir sortir dans les restaurants en pleine capacité, aller même danser, chanter au karaoké et avoir toutes les capacités permises partout.
Mais alors, ça, quand vous avez eu l'avis initial, vous n'avez pas mesuré ça? Les restos étaient là, c'était la fin de semaine, pour donner un break aux gens, c'était quand même pensable à ce moment-là, non?
C'est-à-dire, quand on a fait les premières dates, là, on mettait toujours ça le lundi. Donc, c'était une semaine après l'autre, le lundi. On avait calibré ça comme ça, pour essayer justement de se donner une chance de plus d'une fin de semaine sans toutes ces étapes de contact-là, mais actuellement, le paysage là, épidémiologique va vraiment bien. Ben, va vraiment bien. Là. Je l'ai dit il y a quelques instants, là, ça continue à circuler, mais le système de santé n'est pas mis à l'épreuve autant qu'il l'a été au cours du mois de janvier, vous l'imaginez bien. Alors, cette portion-là, c'est la plus importante. En ce moment, en fait, M. Arcand, c'est pas le fait de vouloir protéger les gens d'être en contact avec le virus. Il circule, il circulera. Un jour ou l'autre, tout le monde va être en contact avec ce virus-là. Il faut juste cadencer ce contact-là en faisant en sorte que les gens soient bien protégés et que le système de santé puisse tenir debout. Et avec ça, en ce moment, on pense que même si on lève toutes les mesures un peu plus tôt, le système de santé va se tenir debout. Donc, ce deux jours-là est important, mais il n'est pas... nos calculs nous montrent que ça ne viendra pas basculer nos prévisions. Et donc, on est confortable à le suggérer ici.
OK. Le couvre-feu, là, je sais, c'était pas vous le directeur de la santé publique à l'époque, mais est-ce que vous avez vu dans les cartons de la santé publique des études scientifiques, des avis éthiques qui montrent l'utilité d'un couvre-feu?
Moi, ce que j'ai vu, en plus récemment, parce que la question a été remise sur la table, comme vous le dites, c'était pas moi qui étais le directeur national, mais j'ai quand même regardé comment les dispositions étaient faites et il y a eu beaucoup de discussions et d'échanges avec plusieurs personnes, donc tous les directeurs de santé publique, avec des experts aussi et des experts très solides qui ont ramené des études qui ont été faites, touchant en particulier l'ensemble des mesures, mais aussi le couvre-feu. C'est très difficile, hein, M. Arcand, d'isoler une mesure par rapport à d'autres. Toutefois, on est capable de voir l'impact d'une mesure par rapport à d'autres sur toutes sortes d'autres phénomènes. Puis je pense que la documentation que l'équipe de la Direction de santé publique Montréal montrait allait dans ce sens-là. Mais par contre, il y avait d'autres études, là, notamment ce qui a été fait pour documenter la différence entre Montréal et Toronto durant la période pandémique avec le couvre-feu. Des études observationnelles du côté de la France également qui montraient vraiment qu'il y avait un impact de diminution importante des contacts. Et là, on était rendu là. Souvenez-vous, à la fin du mois de décembre, c'était une période très inquiétante. On voyait l'épidémiologie monter là en flèche, les cas au niveau des hôpitaux monter en flèche, les soins intensifs, les décès commençaient. Donc, on le savait très bien qu'on s'en allait vers une vague qui était pour être la plus importante qu'on avait eue, et de loin. Alors, il y avait des dispositions à prendre, et j'étais là quand les recommandations ont été faites. C'est pas moi qui les portais, j'étais dans une autre institution, et je peux vous dire que c'était pas une demande politique là, du tout, de dire il faut qu'on fasse un couvre-feu, là, mais vraiment pas. Il y a personne qui est intéressé à faire ça.
Ça, je comprends, mais il y a quelque chose que j'ai de la misère à suivre quand même. Là. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la santé publique de Montréal qui dit que c'est pas une bonne idée, que ça va nuire aux plus vulnérables de la société. Puis vous me dites que vous avez d'autres études, d'autres avis, observations qui montrent l'efficacité des couvre-feux?
En fait, oui, il y a des études qui ont été faites sur le plan scientifique et de la documentation publiée, là, qui montrent que les expériences françaises, vous savez, en France, c'est un grand territoire et ils ont des endroits où ils ont mis des couvre-feux, d'autres qui l'ont pas mis. Là, ça dépendait des régions à certains moments. Et la même chose aussi au niveau canadien, entre le Québec et l'Ontario, entre Montréal et Toronto. Donc, il y avait des signaux scientifiques qui montraient qu'il y avait effectivement une efficacité de ce côté-là. Et M. Arcand, c'est pas une grande surprise d'imaginer que quand on fait un couvre-feu, on diminue les contacts. Et on diminuait aussi, en particulier, les contacts dans les foyers, là, donc les gens qui se réunissent à 6-8 personnes, qui étaient un lieu de contamination très, très grand dans ces périodes-là.
Mais pourquoi est-ce qu'il a disparu aussi rapidement après? Ça a duré 2 semaines.
Ça a duré 2 semaines parce que moi, je suis entré en fonction le 11 janvier et le 12 janvier, j'ai eu les échanges avec les autorités gouvernementales pour recommander qu'on le retire et recommander aussi qu'on invite les enfants à revenir à l'école là, dans les jours qui suivaient, le 17. Puis ça a été le 18 à cause de la tempête, là, mais c'est pas important. Donc le point, c'est que dès le lendemain, là, on avait assez d'informations pour recommander qu'on le retire. De toute façon, le gouvernement avait annoncé qu'il voulait que ce soit retiré rapidement, mais moi, quand j'ai pris la fonction, j'ai regardé où on en était rendu et on avait commencé à voir une baisse de la croissance des hôpitaux. En fait, le motif, c'était pas de dire...
Non, je comprends, Dr. Boileau, mais moi, je regarde ça comme un citoyen. Je me dis, la première fois, le couvre-feu, il y avait une justification. Deuxièmement, quand le couvre-feu est arrivé, je suis conscient qu'il y avait des hausses de cas, mais il y avait quand même une population beaucoup plus vaccinée. On n'était pas dans le même contexte, même de situation qu'on a vue en France. On fait un couvre-feu, 2 semaines après, on l'enlève. Entre vous et moi, là, je comprends que les gouvernements aiment pas ça, mais ça a l'air de dire, là, finalement, c'est pas utile, ben, on l'enlève. T'sais, c'est comme, la santé publique de Montréal nous dit de pas le faire, on le fait pareil, puis après 2 semaines, savez-vous, on va laisser faire.
Regardez, on peut le voir ainsi, M. Arcand, puis je pense que vous le montrez d'un côté qui est justement le côté hâtif de le retirer, mais c'était la volonté de tout le monde de dire on va prendre toutes les mesures qu'il faut pour freiner la croissance de cette pandémie-là et son impact sur le système d'enfants. Et aussitôt qu'on a la possibilité, on le retire. Moi, quand je suis arrivé, on a calculé, puis on a dit on a possibilité de l'enlever puisque ça commence à s'infléchir. Ça baissait pas. C'est la croissance commençait à se réduire. Alors, je l'ai recommandé de l'enlever et tout de suite, le gouvernement a accepté et ça s'est fait très bien. Maintenant, moi, j'ai eu la partie plus facile. Là. C'était pas la partie de dire faut le mettre de l'avant, mais quand la décision a été prise, je pense que les données épidémiologiques montraient que c'était extrêmement grave et inquiétant.
Mais vous auriez pris la même décision que le docteur Arruda, c'est ça, je comprends. Vous l'auriez imposé, vous aussi, à ce moment-là, à la fin décembre.
Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'il y avait... Le profil était en forte croissance. Je n'étais pas là pour prendre la décision. Je ne sais pas quelle décision j'aurais prise, mais certainement que je l'aurais considéré beaucoup. Mais je vais laisser présumer que mon collègue, Dr. Arruda, a pris les bonnes décisions. Jusqu'à maintenant, je regarde surtout celles que je dois prendre, pas trop celles qui ont été prises avant. Mais chose certaine, c'est que la situation était extrêmement difficile.
Une dernière question. Est-ce que les études dont vous me parlez, les comparatifs avec l'Ontario, la France et tout ça, est-ce que ça, c'est public? Est-ce que c'est disponible? Est-ce qu'on peut les obtenir?
Bien sûr. Ce sont des études qui ont été publiées déjà, donc c'est pas difficile d'obtenir ça. Si vous souhaitez les avoir, sûrement qu'on va s'assurer de vous les fournir. Mais ce ne sont pas donc des documents là, écrits. pris sur un coin de table. Ce sont des choses qui ont été bien documentées. Et la réflexion épidémiologique entre les différents experts, qu'ils soient ceux qui entourent le directeur national de santé publique ou qui l'entouraient à ce moment-là, ceux de l'Institut national de santé publique et des autres groupes, ont été mis à collaboration, les directeurs régionaux de santé publique. Donc, c'était pas une décision, visiblement, là, quand je la regarde, la façon dont elle a été prise, puisque je n'étais pas celui qui pilotait ça, c'était pas une décision où tout le monde ensemble disait « go, go, go ». Il y avait des nuances à faire, puis vous en nommez une, celle de la Direction de santé publique de Montréal. Alors, il y avait un paysage qui était pas parfaitement consensuel, mais il fallait quand même que le directeur national prenne une décision et le prise, puis c'est comme ça.
Merci, Dr. Boileau. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Dr. Luc Boileau est le directeur national de santé publique par intérim.
C'est 23.